Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus nous dit: voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? L'autre répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva en cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? » Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va, toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans la très sérieuse préparation au mariage que Agnès et Jean-Christophe ont faite depuis déjà un certain temps, puisque avec notre chère pandémie, ce mariage aurait dû avoir lieu sous d'autres cieux, peut-être plus cléments. Mais toujours est-il qu'il a lieu en Seine-et-Marne et je suis ravi de pouvoir célébrer ces noces, moi qui ai préparé les fiancés. Dans cette préparation, je leur ai dit: dans les lectures que vous choisirez, prenez en compte un critère. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'assemblée qui sera là présente à vos côtés, des amis, des familles, des proches? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de votre couple? Mais aussi, en quoi cette parole de Dieu, qui, nous le savons, est une parole vivante, en quoi cette parole de Dieu va aussi éclairer votre chemin pour l'avenir? Et de fait, si la première lecture est souvent entendue, choisie pour les messes de mariage, la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, voilà, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement, vivez dans l'action de grâce, c'est un programme de vie. Et nous pourrions reprendre phrase par phrase ce que nous dit saint Paul, c'est un programme de vie pour tous ceux qui vivent dans la foi au Christ, mais aussi pour tous ceux qui vivent dans une vie de couple et souhaitent que ce vie de couple soit rayonnante. En revanche, l'Évangile, lui, est beaucoup moins attendu. On a l'habitude de construire sur le roc. On a l'habitude des noces de Cana. Mais pas de la parabole du bon samaritain. Et pourtant, cette parabole, je trouve, illustre de façon magnifique ce qu'est la vie matrimoniale et familiale. Ça illustre de façon magnifique dans le sens où Jésus répond à une interrogation. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Cette question de la vie éternelle est une question pour tous les croyants qui, nous le savons, notre vie ne termine pas ici et quand nous mettons un enfant au monde, nous le mettons au monde pour la vie éternelle. Et c'est capital. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Il dit, qu'y a-t-il dans la loi, dans la Torah, que dis-tu? Et il cite ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, voilà, le Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Donc l'amour du prochain ne vient pas directement de Jésus. Ce n'est pas lui qui a instauré la religion de l'amour, c'était déjà dans l'ancienne alliance. Mais Jésus va plus loin et interroge « Qui est mon prochain ?» Et il cite la parabole du bon samaritain avec cet homme tombé entre les mains des bandits et puis il y a un prêtre qui passe par là, un lévite, c'est-à-dire un docteur de la loi qui passe par là et puis un samaritain, il faut savoir un peu, les samaritains, ils n'étaient pas très, j'allais dire, très catholiques dans le sens où ils étaient une forme de secte par rapport au judaïsme. Ils étaient considérés par les juifs comme hérétiques. Vous vous rappelez la Samaritaine en Saint Jean qui parle avec Jésus. Où devons-nous adorer? Est-ce à Jérusalem ou sur le mont Garizim? Pour eux, c'était le mont Garizim. Voilà, il y avait un certain nombre de choses où ils n'étaient pas d'accord au niveau fondamental avec les juifs. Donc c'était les juifs et les samaritains n'avaient rien à faire ensemble, rien à voir. Donc quelqu'un qui est quelque part sur le bord du chemin, mais sur le bord du chemin aussi de la foi qui n'est pas dans ce peuple juif, qui n'est pas reconnu comme appartenant à ce peuple, qui est d'une certaine manière en marge. Je trouve que c'est intéressant de méditer sur cette parole justement dans ce jour particulier de vos noces. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas forcément, et nous le plaçons sous le regard du Christ, il y a toujours quelque chose en nous qui n'est pas forcément réconcilié complètement avec le Seigneur, qui est un peu en marge de cette suite de Jésus. Et Jésus vient appeler cette partie de nous-mêmes. Il vient l'appeler pour la rapprocher, pour lui dire « Tu es capable de faire le bien. » Ce n'est pas parce que tu ne réponds à tous les critères du judaïsme d'alors, tu ne réponds pas aux critères du judaïsme d'alors, que tu n'es pas capable de faire le bien. Et pour nous aussi, c'est important de dire qu'il est parfois des parties de nous-mêmes qui ne sont pas réconciliées avec le Christ, mais que le Seigneur veut appeler pour que ces parties de nous-mêmes puissent, par la charité, parce qu'il s'agit de charité, par la charité, annoncer le Seigneur. Qui est le prochain? Voilà, celui qui a pris soin de lui, soin de l'homme tombé aux mains des bandits. Prendre soin, n'est-ce pas le cœur de la vie matrimoniale? Prendre soin, évidemment. De quoi s'agit-il dans un mariage? De prendre soin l'un de l'autre. De prendre soin l'un de l'autre dans différentes circonstances. Prendre soin l'un de l'autre dans le début de la vie matrimoniale, avec la naissance des enfants, avec les tensions que cela peut, les joies et les difficultés que cela peut occasionner. Prendre soin de l'un de l'autre dans la maladie, Être épouse, c'est prendre soin l'un de l'autre dans le grand âge. Prendre soin l'un de l'autre. Au fond, aimer, c'est passer du je au nous. C'est passer du je au nous. C'est-à-dire que le destin de l'autre, eh bien, je le fais mien parce qu'il me concerne, parce qu'il m'est propre, parce qu'il m'est cher. Quel que soit dans l'état dans lequel il se trouve ou elle se trouve, dans un moment donné, on ne sait pas les difficultés de professionnelles, de santé que vous pourrez traverser. Mais je m'engage à être à tes côtés et prendre soin de toi. Prendre soin, n'est-ce pas une autre manière de dire la charité ? Être aux côtés de l'autre, dans la vulnérabilité, comme cet homme tombé entre les mains des bandits qui est blessé de toutes parts. Être aux côtés de l'autre, dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, n'est-ce pas être témoin de Jésus-Christ ? Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous le croyons. Le mariage, c'est une école pour prendre soin, pour être à l'écoute d'eux, pour sortir de notre zone de confort. Le mariage, c'est une invitation à l'amour dans le sens le plus noble du terme, de dire que rien de ce qui fait ta destinée ne m'est étranger. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, je fais bien ton destin, je fais mienne les circonstances et les nécessités de ta vie. C'est ça que veut dire prendre soin, être attentif, être profondément dédié, passer du je au nous. C'est l'histoire d'une vie, parce qu'au contraire, en nous, il y a d'autres choses qui nous éloignent de la parabole du bon samaritain. L'égoïsme, le perfectionnisme, l'activisme, on va plus loin seul, plus vite. Mais est-ce qu'on va plus profond seul ? Le Seigneur, à travers cette parabole du bon samaritain, nous dit aux uns et aux autres que dans nos sociétés souvent individualistes, il nous dit que nous sommes appelés à nous mettre aux côtés de ceux qui souffrent et singulièrement de ceux qui nous sont proches, de ceux qui sont de notre famille, mais au-delà même de personnes qui, à nos côtés, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans notre village, sont en difficulté. Ce qui a fait l'expansion du christianisme dès son aurore, c'est justement ça, des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort pour aller à la rencontre de ceux qui sont blessés. C'est cette grâce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui, cette grâce dont vous voulez être témoins, Jean-Christophe et Agnès, puisque vous avez choisi ce texte qui vous implique, qui d'une manière ou d'une autre dit ce que vous êtes aussi. Vous êtes passé par ces moments de difficulté, ces moments où il a fallu s'accrocher, prendre soin de l'autre, et vous vous dites, ça, je veux en faire une ligne directrice pour ma vie. C'est ça qu'ils nous disent à travers ce choix au seuil même de l'engagement dans l'échange des consentements. Je veux en faire le cœur de ma vie. Comment ne pas être touché? Comment, d'une manière ou d'une autre, ne pas se sentir bousculé par la parole du Seigneur? Parce que si Agnès et Jean-Christophe l'ont choisi au jour de leurs noces, c'est un texte qui s'applique à tous ceux qui veulent suivre le Christ comme disciples. Toi, va et fais de même. Amen.